Bon appétit, l'émission sur les recettes de cuisine et les secrets culinaires. Une émission présentée par Hélène et Anisette.
Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Nous avons retracé les jeunes années de notre apprenti peintre issu de la grande bourgeoisie dans notre précédent épisode. L'année 1874 est marquée par la première exposition des impressionnistes, mais il n'y participe pas puisqu'il vient juste de quitter l'école des beaux-arts. Prenons pinceau, palette et chevalet. Et posons-les en terre parisienne. Bienvenue chez Gustave Caillebotte.
Trame.
Des deuils successifs vont assombrir la vie du peintre, alors âgé de 26 ans. En effet, le 24 ou 25 décembre 1974, selon les sources, son père Martial Caillebotte, dirigeant de l'entreprise familiale Le Lit Militaire, décède. Il laisse une fortune colossale à ses descendants. Sa femme, ses quatre fils, se partagent ainsi 2 millions de francs. La succession se compose d'immeubles, de fermes, de placements financiers, d'obligations, titres de rente sur l'État. Désormais, les héritiers sont à l'abri de tout souci matériel. Alfred, le demi-frère, devient le curé le plus riche de Paris, avec 50 000 livres de rente. Gustave, lui, peut s'adonner à la peinture en toute quiétude. Il connaît déjà Degas et aussi Henri Roir, peintre également, qui habite dans la même rue de Lisbonne. Sa mère garde le domaine d'Hyères, où il pourra peindre de nombreux tableaux. La rivière, le jardin, le potager, le canotage, les distractions au bord de l'eau en seront les sujets de prédilection. D'ailleurs, dès cette année 75, il brosse, lierre et fait de pluie, ou bord de rivière sous la pluie. Indiana University Art Museum, Bloomington. Le peintre se focalise principalement sur les ondes créées par la pluie à la surface de la rivière, nuancées de vert et de brun.
Voyage en terre de couleur, les impressionnistes.
Gustave fait un nouveau voyage à Naples en 75, chez la famille de Nitis. Giuseppe de Nitis a fait son apprentissage dans l'atelier du peintre Jérôme. Invité par Degas à exposer un tableau lors de leur première manifestation en avril 1974, celui-ci ne fut accroché qu'après l'ouverture officielle, par Renoir. Vexé, de Nitis ne participera plus aux expositions impressionnistes. De retour d'Italie, Caillebotte présente le 1er mai 1975 au salon sa toile « Les raboteurs de parquet ». Malheureusement, elle est refusée, jugée certainement trop vulgaire par le jury académique. Giuseppe de Nitis, son ami, annonce «
Le peintre est bien triste du refus de son tableau par le jury du salon.
Alors qu'il est à Londres, il demande à sa femme.
Invite Caillebotte à dîner, qu'il tire de la circonstance une vraie leçon, qu'il fasse de l'art en se fichant des jurys, car l'avenir est à nous. Mais qui est de Nitis ?
Giuseppe de Nitis est un peintre italien, arrivé à Paris en 1869. Il a fait ses études du paysage en plein air de 63-67 à Naples. Il brille au salon et fréquente aussi le café Gerbois, où il retrouve entre autres Manet et Degas. C'est lui qui pousse Gustave vers les peintres dissidents futurs impressionnistes. Il choisira Caillebotte comme parrain de son fils. Une véritable amitié lie les deux hommes. Très régulièrement, Giuseppe invite à dîner ses amis au samedi de l'amitié. Outre Degas, Manet, Caillebotte, Desboutins, Marcelin, on y trouve aussi les critiques et romanciers Daudet, Duranti, Claretti, Burti et Zola. Après cet échec, avec l'appui d'Edgar Degas, la demande d'Auguste Renoir et d'Henri Roir, polytechnicien industriel, de venir se joindre au groupe impressionniste, Caillebotte décidera de participer à leur seconde exposition de 1876. Entre-temps, lors de la vente aux enchères à l'hôtel Drouot du 24 mars 1975 des œuvres du noyau des impressionnistes, Renoir, Sisley, Monet, Berthe Morisot, Gustave acquiert la toile de Claude Monet, un coin d'appartement. Georges Rivière, écrivain, raconte alors.
En 1875, un nouveau venu, Gustave Caillebotte, peintre lui-même, apporta aux impressionnistes un appui financier qui vint fort à propos.
Le mécène et collectionneur va commencer à acquérir pas mal d'œuvres de Monet et sera pour ce dernier un soutien inestimable, moral et financier. Caillebotte portera aussi secours à Renoir et Pissarro.
A-t-il d'autres passe-temps ?
Outre la peinture, cet artiste possède une autre passion, la philatélie, qu'il partage avec son frère Martial. Le 14 juin 1975, il fonde la Société française de timbrologie avec Arthur de Rothschild et le docteur Legrand. Les frères Caillebotte vont ainsi être à l'origine de collections de timbres et d'études d'affranchissement. Ils font même publier par le timbre Poste à Paris une analyse sur les timbres mexicains. En 1987, année du mariage de Martial, les deux frères décident de vendre à un des plus grands philatélistes d'Angleterre, Thomas Keith Apling, leur collection pour un montant de 5000 livres, soit 400 000 francs de l'époque. Cet ensemble de timbres et vignettes mexicaines est exposé à la British Library de Londres. À la mort de Tapling en 1891, la collection est alors léguée au British Museum de Londres, avec pour consigne le réaménagement de l'ensemble suivant les préceptes fixés par les frères Caillebotte. Le travail s'échelonnera sur 7 années, mélangeant ainsi les collections originelles de Tapling et des Caillebotte. Cette collection servira de référence pour les catalogues généraux de timbres et les collectionneurs. Elle rassemble presque l'intégralité des timbres du monde de 1840 à 1890.
La seconde exposition des impressionnistes.
Revenons en 1876, année où Gustave rejoint officiellement ce groupe de peintres en révolte contre l'art académique. Il y retrouve Degas, Renoir, Rouart, Monet, Morisot, Sisley, Pissarro, entre autres. Il y est invité par un courrier d'Auguste Renoir et d'Henri Rouart en février 1876. Cette seconde exposition des impressionnistes, surnommée aussi les intransigeants, a lieu le 1er avril au 11 rue Lepelletier, dans la galerie du marchand d'art Paul Durand-Ruel. Caillebotte y expose 8 tableaux, dont les 2 versions des raboteurs du parquet. Jeune homme jouant du piano, jeune homme à sa fenêtre, déjeuner, après déjeuner, et 2 toiles du jardin. Gustave reçoit des compliments pour ses 4 premiers tableaux, mais pas de tout le monde. En effet, Émile Zola, pourtant défenseur des impressionnistes, est plus accusateur envers le style de Caillebotte, qu'il qualifie de réalisme photographique. En juin 1876, il écrit
« Caillebotte a exposé les raboteurs de parquet et un jeune homme à la fenêtre d'un relief étonnant. Seulement, c'est une peinture tout à fait anti-artistique, une peinture claire comme le verre, bourgeoise à force d'exactitude. » La photographie de réalité, quand elle n'est pas rehaussée par l'empreinte originale du talent artistique, est une chose pitoyable.
D'autres journalistes déclarent Caillebotte comme élève de Degas. Dirigeons-nous maintenant du côté du musée, admirer d'un peu plus près ces tableaux.
Du côté du musée.
Et penchons-nous sur...
Les raboteurs de parquet.
Ce tableau, daté de 75, déposé au musée d'Orsay, est de grand format, 1,02 m sur 1,46 m. La scène se situe dans l'appartement de la rue Miroménil en réfection. La vue, en surplomb sur les ouvriers, nous plonge directement sur le plancher, sur leur dos musculeux et leurs bras en mouvement. Le sujet traité, vulgaire pour certains, n'en est pas moins réaliste. Cette œuvre fut donnée en 1894 par les héritiers de Gustave Caillebotte au musée national. Outre cette toile, il en existe une seconde version datée de 76, dans une collection particulière, d'une réalité tout aussi saisissante. La scène, au ton plus chaud, n'est pas située dans le même appartement. En effet, murs et balcons attestent d'un intérieur moins cossu. Les 2 ouvriers au travail sont présentés de profil cette fois. Notre regard est de suite attiré par la diagonale montante nous menant à un apprenti torse nu aiguisant un racloir. Le menuisier à côté est occupé à raboter le parquet ciré. Un certain déséquilibre existe dans cette toile coupée en 2 en diagonale. En effet, l'angle inférieur représente seulement une portion vide du plancher miroitant. À l'opposé, dans l'angle supérieur, se concentrent les 2 travailleurs équipés de leurs genouillères sur le sol raboté. À l'instar de Monet, avec ses déchargeurs de charbon, Caillebotte n'hésite pas à montrer la dure réalité du monde ouvrier. Dans la Gazette des étrangers, il est écrit
Monsieur Caillebotte s'annonce comme un réaliste aussi cru, mais bien autrement spirituel que Courbet, aussi violent, mais bien autrement précis que Monet.
Avec Jeune homme jouant du piano, collection particulière, Gustave s'est replongé dans son milieu de la haute bourgeoisie, avec pour sujet son jeune frère Martial au piano. Ce dernier composera de nombreux opéras, œuvres aussi religieuses. Intérieur feutré, rideaux et tentures à la fenêtre, papier peint au mur, tapis au sol, chaises capitonnées de rouge, tout est là pour nous montrer le confort de cet appartement haussmannien. Martial, âgé de 23 ans, est musicien, compositeur, photographe, passionné comme Gustave de philatélie et de jardinage aussi. Il ne travaillera pas, se consacrant entièrement à ses passions. Martial est peint de profil, se détachant dans la lumière tamisée de la fenêtre. Les tons clairs obscurs, ors et sombres, renforcent cette atmosphère d'intimité. La perspective un peu plongeante sur la scène fait écrire au critique Louis Hainaut en 76.
L'instrument de musique menace de devenir un instrument de torture. On craint à chaque instant de le voir tomber sur le jeune homme qui va être infailliblement écrasé.
Ce tableau a été présenté au musée de l'Orangerie à Paris lors de l'exposition du musée Bridgestone de Tokyo, printemps-été 2017. Cette fois, c'est René, son autre frère de 25 ans, que Gustave représente de dos dans Jeune homme à sa fenêtre, collection privée aussi. Les mains dans les poches, il regarde depuis la fenêtre du deuxième étage de l'appartement du 77 rue de Miroménil vers le boulevard Malesherbes. Contraste entre l'obscurité de la pièce, rehaussée seulement du rouge d'un fauteuil capitonné, et la rue ensoleillée, animée de peu de vie. Seulement une femme, deux calèches, peu de passants, absorbent le regard de René. Il semble protégé des vicissitudes de la rue par l'imposante balustrade de pierre. Louis-Edmond Duranty déclare à cette occasion dans la nouvelle peinture.
Du dedans, c'est par la fenêtre que nous communiquons avec le dehors. La fenêtre est un cadre qui nous accompagne sans cesse durant le temps que nous passons au logis, et ce temps est considérable. Le cadre de la fenêtre, selon que nous sommes loin ou près, que nous nous tenons assis ou debout, découpe le spectacle extérieur de la manière la plus inattendue, nous procurant l'éternelle variété, l'impromptu, qui est une des grandes saveurs de la réalité.
De précieux appuis.
Bon nombre de collectionneurs et marchands d'art ont apporté un soutien inestimable aux peintres du mouvement impressionniste. Il faut le reconnaître, ils ont empêché certains de nos artistes de sombrer définitivement dans une trop grande misère sociale, en leur permettant parfois de pouvoir manger à leur faim, se loger et se chauffer. Bien évidemment, Gustave Caillebotte s'inscrit entièrement dans ce courant de bienfaiteurs. Mécène et collectionneur, nous constatons qu'il apporte une aide inestimable à Claude Monet lors de ses années de dénuement. Gustave aide aussi Camille Pissarro ou Auguste Renoir en lui prenant son bal au Moulin de la Galette de 76. Tous lui seront reconnaissants. Caillebotte achète aussi leurs tableaux en les payant au prix fort ou en faisant monter les cours lors des ventes aux enchères. Qu'ils soient de grands ou petits amateurs d'art, certains de ces philanthropes n'hésitent pas à acquérir cette peinture novatrice, plus par envie que dans un objectif financier. Ernest Ochédé, négociant en tissu, est un adepte de ces tableaux dès le début. D'ailleurs, c'est lui qui devient acquéreur de la toile de Monet, Impression Soleil Levant, qui, lors de la liquidation de ses œuvres, atterrit dans les mains du docteur de Béliot. Ce médecin roumain, altruiste, collectionneur, soigne les Monets désargentés. L'industriel du Havre, Louis Gaudibert, passe commande auprès de Monet de plusieurs œuvres. Malheureusement, à l'instar de Frédéric Basile, il disparaît lors de la guerre de 70. Victor Choquet, discret employé des douanes à Paris, que Renoir qualifiera de plus grand collectionneur français, soutient non seulement Auguste, mais aussi Paul Cézanne. D'ailleurs, il détiendra de ce dernier une trentaine d'œuvres. N'oublions pas le baryton et chanteur d'opéra Jean-Baptiste Faure, qui commande des tableaux à Degas, possédera jusqu'à 28 Sisley et une soixantaine de Monet. Alfred Sisley reçut le soutien de l'amateur d'art, le pâtissier-restaurateur Eugène Murer, qui aura près d'une trentaine de ses toiles en 1877. Nous ne pouvons les citer tous, mais notons quand même le journaliste et critique d'art Théodore Duré ou le docteur Gachet. Par ailleurs, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur les marchands d'art dont l'intérêt s'éveille au fil des expositions des intransigeants. Ambroise Vollard, ami de la famille Renoir, Georges Petit, les frères Bernheim et Paul Durand-Ruel ont, dès le début du mouvement impressionniste, misé sur cette peinture. Notre voyage en terre de couleurs se clôture pour aujourd'hui sur la première exposition de Caillebotte. Je vous invite à le poursuivre très prochainement sur cette même antenne afin de découvrir une autre passion de l'artiste.
Bon appétit, l'émission sur les recettes de cuisine et les secrets culinaires. Une émission qui vous a été présentée par Hélène et Anisette.